7h41, le 4 novembre dernier, moins de 17 000 votants sont attendus pour venir participer au second tour des primaires organisées par Europe Écologie Les Verts en vue des élections présidentielles de 2017. Si l'identité du candidat désigné demeure incertaine, l'issue est pourtant déjà connue. Depuis 40 ans qu'elle existe dans le paysage électoral français, l'écologie politique n'a jamais su s'imposer avec une véritable interrogation, puisqu'on a l'impression qu'il y a toute une série, et malgré tout, de préoccupations écologiques et on a l'impression que personne ne les porte véritablement. Bonjour Fabrice Flipeau. Vous êtes maître de conférences en philosophie politique et sociale. Comment comprendre ce paradoxe ?
Bonjour. Le problème est assez complexe en fait. On dit souvent qu'il y a un accord et on étaye ça sur les sondages qu'on peut trouver, qui sont faits par le CVIPOF par exemple. Un accord très général dans la population pour dire que l'environnement c'est important. Le problème c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de très précis. C'est-à-dire que les études montrent aussi que le niveau de connaissance des questions environnementales est globalement faible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que le carbone c'est embêtant et que le climat risque de changer, ça nous dit rien de l'ampleur du risque exactement et du temps qui nous reste pour changer et surtout de qu'est-ce que ça veut dire changer, et tout ça globalement est mal connu de la population. Et si c'est mal connu, c'est aussi parce qu'il y a des contre-forces qui sont quand même relativement puissantes, qui nous disent qu'il n'y a pas de problème ou que si les problèmes il va être surmonté, que les solutions sont là, qu'elles vont arriver, et que ces solutions n'ont pas de dimension politique, elles ont une dimension technico-économique et qu'il n'y a pas de raison de politiser tout ça. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que les écologistes, quels qu'ils soient, ont une difficulté disons, ils sont une minorité dans un courant hégémonique qui n'est pas en leur faveur. Ça, c'est un premier
Alors
point.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose que l'on peut se dire, ce sont des causes consensuelles. Dites-vous, Fabrice Flipeau, cela fait en tout cas des décennies que cela dure. Le premier écologiste connu, en tout cas en politique, c'était René Dumont. On l'écoute le 26 avril 1974. C'était alors la campagne électorale pour l'élection présidentielle.
Notre société est une société de domination, est une société de profit, est une société de pillage du tiers-monde, est une société de gaspillage des ressources rares de la planète, d'oppression, de pollution invraisemblable. Et cette société, nous le savons maintenant, nous conduit assez vite à la mort. Si nous continuons sur la même lancée, alors il faut tout de même en sortir vite. Il nous faut donc élaborer de nouvelles orientations. Une structure politique, une structure économique différente. Mais cette tâche, ce n'est pas à nous de l'accomplir entièrement. Nous allons faire de grands projets, de grandes lignes, soumis à l'appréciation de tous les Français, de toutes les Françaises.
La voix de René Dumont, donc un écologiste historique. Alors ce qui est intéressant, Fabrice Flipeau, dans le discours de René Dumont, c'est qu'on voit qu'il y a une imbrication très forte, en France en tout cas, entre l'écologie et une certaine vision de gauche critique de la société capitaliste. Est-ce là une singularité française, et est-ce la raison en quelque sorte du fait que l'écologie politique est en réalité une part de la gauche et ne parvient pas à déborder ce cadre-là?
Non, je ne pense pas. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est un peu similaire. Il faut ajouter tout de suite que l'écologie, depuis les années 60-70, a été reçue, a connu une réception relativement importante à deux endroits d'échiquier politique, qui est le centre et la gauche du PS. Donc là, on parlait plutôt du courant de la gauche du PS. Il y a quand même le courant du centre qui est représenté notamment par Corinne Lepage, qui est assez critique aussi par rapport à l'ordre libéral, l'ordre capitaliste. C'est-à-dire que ces courants ne peuvent pas être pour l'accumulation illimitée. Ça, c'est clairement pas le cas. On peut pas être écolo et être pour l'accumulation illimitée. C'est contradictoire. Par contre, il y a différents moyens d'y arriver et il y a une écologie plutôt sociale, on va dire, qui essaye de toucher large, de parler des inégalités sociales, de faire des alliances qui sont difficiles pour toutes sortes de raisons, et une écologie qui essaye au contraire de rassembler tous les écologistes sur une base de, bon, on va pas parler de ce qui nous fâche, et notamment de la question sociale. Et ça, c'est l'écologie plutôt, Europe Écologie Les Verts a été plutôt construite sur ce consensus là d'un rassemblement le plus large possible.
Un rassemblement très large, mais malgré tout, là encore, avec une difficulté à porter des causes. Alors, on se souvient, par exemple, de la campagne présidentielle d'Eva Joly. Eva Joly insistait beaucoup sur ces thèmes qui relevaient notamment donc de la fraude fiscale et insistait infiniment moins probablement sur des sujets écologiques. C'était après la catastrophe de Fukushima et par exemple, on l'a peu entendu sur le nucléaire.
Oui, alors c'est toujours la difficulté aussi des écologistes en politique. Hein. Donc là, on est en train de parler plutôt des partis politiques. Mais il faut avoir en tête que le mouvement écologiste est aussi un mouvement de la société civile et peut-être avant tout un mouvement de la société civile. Pour ce qui est de l'arène écologique, de l'arène politique, pardon, le parti pris écologiste est compliqué pour toutes sortes de raisons et rendu très difficile. Et notamment, quand les écologistes font trop d'écologie, on leur dit, mais vous êtes un parti de sectoriel, vous n'êtes pas un vrai parti politique avec un vrai programme. Et quand, au contraire, ils essayent d'avoir un programme qui est relativement complet, on leur dit, oui, mais vous ne faites plus d'écologie, et donc à quoi vous servez? Donc il y a toujours, enfin, c'est une des multiples hésitations qui est imposée aux écologistes. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le champ politique, et c'est un questionnement qui vient de la part des élites et plus largement aussi de la société, où on se demande quelle est véritablement la place d'un parti écolo.
Et pour certains, en fait, cette place, c'est celle d'une maison de fous. Hein, c'est ce que raconte en tout cas José Bové.
Moi, j'ai jamais été membre d'un parti politique, donc j'ai jamais été adhérent non plus à Europe Écologie des Verts, mais j'ai fait partie de ce mouvement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne comprends pas du tout comment ils fonctionnent, parce qu'on a eu un resserrement. Alors, c'est leur problème interne. Je dirais simplement que ça pose un vrai problème pour l'écologie et pour la défense des combats aujourd'hui, sur un plan politique, que ce soit au niveau national ou européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tellement la défense au quotidien de l'écologie qui l'emporte, plutôt les batailles d'égo, les batailles d'appareils. C'est vrai que quand je regarde les mails qui arrivent, on a l'impression un peu d'une maison de fous.
La voix de José Bové. Il faut faire, à mon avis, un peu de sociologie des partis politiques, Fabrice Flipeau, tout simplement parce qu'on a l'impression, peut-être à tort, vous allez nous le dire, qu'au sein des écologistes, eh bien, les batailles purement politiciennes, qui sont en fait des batailles d'individus et pas des batailles d'idées, occupent la majorité de l'énergie des membres de ce parti.
Moi je suis pas sociologue politique, donc je suis philosophe politique et donc
Mais vous êtes un observateur quand même des écologistes.
Non, mais je vois
vous
les
voyez
choses...
de quoi on parle.
Oui, je vois les choses dans un temps plus long aussi et donc je vois surtout qu'au-delà des batailles de personnes, si on a regardé hier le second tour de la primaire verte, on voit que c'est, à mon avis, c'est pas des batailles de personnes, c'est des gens qui sont authentiquement engagés sur des questions écologiques. En plus, il n'y a pratiquement rien qui les différencie. Non, il n'y a pas que ça. Je pense qu'on simplifie peut-être un peu trop les choses en regardant cet aspect-là. Mm-hmm. Ça permet peut-être aussi de dire que l'écologie politique, aujourd'hui, c'est un peu de la faute des écologistes si on n'en parle pas assez. Et je pense que là aussi, c'est un peu simple. Ils ne sont jamais comme il faut, les écologistes. Et donc, du coup, le fait que ce soit un peu toujours de leur faute, de ceux qui incarnent l'écologie, ça disculpe un peu tout le monde sur les questions écologiques. On peut toujours se dire, oui, le jour où on aura un vrai candidat, dans ce cas-là, je voterai pour lui, un candidat sérieux, et pendant ce temps, le temps passe, et évidemment, le candidat parfait n'arrive pas, et les gaz à effet de serre augmentent, la diversité disparaît, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut... des questions de personnes, il y en a partout, hein, mais il faut peut-être pas trop focaliser non plus sur ces aspects-là.
Mais vous trouvez, par exemple, qu'on ne parle pas assez d'écologie, que l'écologie n'a pas, en matière de communication, les moyens que pourraient avoir les adversaires de l'écologie, c'est-à-dire donc les grosses firmes, notamment les semenciers, enfin bref, tous ceux qui ont plutôt intérêt à ce que les OGM et les pesticides s'installent sur la longue durée, Fabrice Flipeau.
Oui, non mais c'est très clair, les études le montrent, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. Les gens confondent ne serait-ce que la quantité de nucléaire dans notre énergie. Tout le monde pense que c'est 80% de nucléaire dans notre énergie, alors que c'est 80% dans l'électricité. Voilà une confusion de base, mais il y en a plein. Moi, je le vois, je suis enseignant, j'ai des étudiants qui ont fait des classes prépa, qui sont normalement scientifiques, on leur répète 10 fois que ces 80% de l'électricité, ben, ils me mettent encore dans le contrôle à la fin que c'est 80% de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça des au niveau, c'est ce qu'on appelle des luttes hégémoniques, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la représentation, il y a tout un tas d'erreurs qui sont dûment attestées. Il y a eu une enquête avant la COP21 de l'ADEME sur la représentation que les Français se font du climat. Les choses, les pourcentages, les réponses n'ont pas bougé depuis 15 ans. D'accord. Donc la COP21, on dit on va parler du climat. En fait, on n'a pas vraiment parlé du climat. Alors maintenant, il faudrait faire une mesure parce que c'était une mesure en 2014. Mais non, les gens n'ont pas une vraie appréhension des enjeux écologiques. Donc après, ils peuvent toujours chinoiser en disant oh oui, mais ce candidat, il est passé ceci, il est passé cela. Et mais parce que derrière, on voit pas l'importance des enjeux. Donc on peut chinoiser.
Mais alors par rapport à ça, on a parlé par exemple de la nécessité de faire, je mets l'expression entre guillemets, du populisme climatique.
Oui, ben moi c'est tout à fait, c'est moi je défends ça. Qu'est-ce que c'est le populisme? C'est de dire que il faut parler de choses au peuple, des enjeux écologiques au peuple, plutôt que de vouloir résoudre ça au travers d'experts et en petit comité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'observe au travers des recherches, si vous voulez, c'est que sur la plupart des enjeux écologiques, vous avez une tentative de résolution en petit comité avec Greenpeace, les syndicats, le patronat, les autorités public et puis le grand public n'y comprend rien. Le populisme, alors c'est vrai que c'est un concept compliqué, mais l'un des sens possibles du populisme, c'est une posture politique qui permet au peuple de faire peuple et qui permet donc de faciliter l'expression populaire et non pas de le duper, c'est le contraire. Hein. Il y a une autre définition effectivement qui est de duper le peuple, de le manipuler. Mm-hmm. Et c'est pas à ça évidemment que je fais référence. Hein. Donc oui.
Mais alors, donnez-nous des exemples. Parce qu'on a l'impression, au contraire, qu'il y a eu énormément de communication et de communication parfois simpliste. Vous savez, l'époque, par exemple, où l'on parlait d'arrêter l'eau tandis que l'on se brosse les dents. Enfin bref, le populisme climatique, c'est une chose, mais on a fait assaut quand même de campagnes, de communication et de slogans pour tenter donc de faire avancer les idées écologistes, Fabrice Philippot.
Oh, à ma connaissance, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il
y a assez, en tout cas.
Un spot de l'ADEME perdu au milieu de dizaines de milliers de spots qui disent implicitement le contraire. Donc non, c'est clairement c'est pas le cas. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous avez un exemple en tête, mais en tout cas les études montrent que c'est pas le cas. Et en plus les spots de l'ADEME, enfin quand c'est le cas, c'est souvent des spots qui sont très neutres sur le plan politique. Justement, hein, les spots de l'ADEME, c'est d'expliquer quel est le problème et surtout pas d'aller démonter quelles sont les responsabilités et quelles sont les divergences sur les solutions. On l'a vu à la COP21, encore une fois. Les grandes boîtes avaient les moyens de mettre en avant leurs pseudo-solutions. Ces solutions, je dis bien pseudo-solutions, c'est-à-dire que pour elles, c'est d'abord des marchés. Il s'agit de caser son dernier produit, de faire croire que tout ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la proportion qui est nécessaire. C'est pas du tout le cas. Quand on regarde les débats autour du bâtiment, on peut prendre n'importe quel sujet, hein. Mais si on regarde les débats autour du bâtiment, aujourd'hui, il faudrait isoler massivement. Évidemment, tout ça, c'est des marchés. Au niveau de la formation...
Les constructeurs ne sont pas contre. Les constructeurs de maisons ne sont pas contre à ce que l'on isole massivement, tout simplement parce que, comme vous le dites, c'est un marché supplémentaire. Et donc,
alors, les constructeurs de neuf, là, vous êtes en train de parler. Mais justement, dans le neuf, qu'est-ce qui est privilégié? C'est le béton, le verre et l'aluminium qui fait des maisons de basse consommation, mais avec un impact à la fabrication qui est relativement élevé. Alors qu'il a fallu des années et des années pour homologuer la botte de paille qui a une excellente empreinte carbone. Et qui résiste très bien au feu, parce que...
Oui, c'est vrai, on pourrait redouter.
L'a priori, voilà, c'est pas la maison des trois petits cochons.
Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a expliqué qu'elle était hostile à ce qu'elle a appelé l'écologie punitive. Ça vous parle, ça, l'écologie punitive? Vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'écologie, en tant que force politique, ne progresse pas plus en France, Fabrice Philippot?
Bah, c'est punitif. Disons que la question est compliquée parce que c'est vrai qu'il y a un discours qui dit on va pointer du doigt les pollueurs. Bon, et les punir entre guillemets parce qu'ils dégradent la nature. Et on voit pas forcément l'écologie des solutions entre guillemets. Alors je dirais que c'est partiellement un débat biaisé parce que qui dit ça? C'est ceux qui sont touchés par, qui sont éventuellement pointés du doigt comme étant les responsables. Eux, ils disent oui, mais ça c'est une écologie punitive. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on nous donne une porte de sortie, et parce qu'ils veulent pas quitter le jeu. Donc il y a tout un tas d'acteurs comme ça qui disent que c'est une écologie punitive parce qu'ils sont remis en cause. Mais il y a une écologie des solutions à côté, mais les solutions, c'est pas leur solution. Donc évidemment, ils sont pas contents. Mais les solutions existent. Et encore une fois, le problème, c'est que le côté créatif, des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes d'habiter, de consommer et ainsi de suite, sont très, très minoritaires quand même en France, sont relativement mal connus, sont éloignés du mode de vie concret des Français. Hein. Enfin, une bonne partie des Français, c'est le supermarché, la maison Bouygues, la consommation de masse, Décathlon, Ikea. Et voilà, donc il faut voir la réalité des modes de vie de la majorité des Français. C'est quand même, c'est pas très écologique. Donc il y a tous les intérêts établis qui justement vendent tous ces meubles, tous ces produits prêts à jeter et chargés en carbone. Quand on leur dit ben maintenant il va falloir changer, ils disent ben non, moi j'ai pas envie, ça m'embête. Donc c'est ce qu'ils appellent l'écologie punitive. Alors le problème, c'est que eux, les solutions qu'ils mettent en avant, c'est des solutions qui sont pas, encore une fois, pas à la hauteur du problème. Donc voilà, quand on disait au début on est d'accord, ben non, on n'est pas d'accord sur le diagnostic, et on n'est pas d'accord non plus sur les solutions. Et malheureusement, moi je le regrette évidemment, c'est parce que j'enseigne ça, parce que je connais quand même pas mal les dossiers et tout. Je pense qu'il y a beaucoup il y a une dépossession de la société française par rapport à la question écologique qui est quand même assez grave, c'est-à-dire que les enjeux sont de plus en plus documentés et la population est maintenue dans un état d'ignorance joyeux, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire la publicité tous les jours, la télé-réalité, tout va bien, et alors qu'en fait non, tout va pas bien.
Mais est-ce que ça,
c'est
pas justement,
se réveiller, et voilà, c'est ce que craint l'écologie politique depuis le début, René Dumont notamment, qu'un jour on se réveille et qu'on se réveille avec quelqu'un qui nous dise bon ben maintenant état d'urgence, j'envoie les flics partout pour mettre en place pour faire face à la crise, et ça s'appelle l'écofascisme.
Mais Fabrice Flippot, est-ce que ça, c'est pas justement un peu une vision aristocratique de l'écologie, en disant ben voilà, finalement il y a des masses qui s'abêtissent en allant donc dans des supermarchés, tandis qu'une petite élite, elle, comprend les enjeux?
Bah, elles s'abêtissent pas, elles sont abêties. Et je veux dire, où sont les preuves quand je dis ça, et est-ce que c'est élitiste? Je pense pas que ce soit élitiste, au sens où on peut pas faire du relativisme non plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont établies. Le cordonnier sait réparer des chaussures, le climatologue sait étudier le climat. Je veux dire, hein, donc je suis pas en train de dire les savants savent tout. Et non, il y a une diversité de savoirs dans la société, et savoir circule pas. Et quand on fait par exemple une conférence de citoyens, une convention de citoyens qui est portée par l'association Sciences Citoyennes, ça a été fait sur le climat, je vous assure que les citoyens sont très très intelligents.